Direct en jeu, la radio insolite. Bonjour à tous et bienvenue en cette belle journée ensoleillée. Alors, je le dis tout simplement parce que c'est pas ton cas, Alicia. Bonjour. Bonjour, Alicia.
Bonjour.
Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sous les eaux, là? Vous êtes en pleine neige? Vous avez 4 mètres? Qu'est-ce qui vous arrive?
Non, alors on a effectivement, depuis qu'on a fermé nos portes le 29 octobre, administrativement du fait du Covid, on est plutôt sous les eaux que sous la neige. On a dû avoir deux petits épisodes neigeux, mais on est surtout sous les eaux. Et ce qui a provoqué depuis mi-octobre, trois cascades d'eau dans la grotte, puisque le niveau du lac souterrain a pris en masse largement et on a pu assister à ce que Mère Nature a de plus beau à nous offrir. Voilà.
Attends, je comprends
Donc.
pas. Pourquoi tu me parles de grotte là? Qui es-tu? Où est-ce qu'on est là? On est. Moi,
Qui suis-je? Qui
Ah oui?
suis-je? Moi, j'ai la chance de travailler pour le site naturel des grottes de la Balme en Orisère, donc à 40 minutes de Lyon et à peu près 50 minutes de Bourgoin. Et effectivement, on a la chance d'être traversé de part en part par une rivière souterraine qui se joue de nous quand on a beaucoup de pluie. Voilà. Donc, depuis mi-octobre, on a beaucoup d'eau dans la grotte. C'est chouette parce qu'on ne l'avait pas vu depuis longtemps, donc on est content. Ah
Alors, si je
bah
puis me
la
permettre,
sécheresse, hein.
ouais. Alors, moi, si je puis me permettre, j'ai l'impression que, je crois que c'est il y a une dizaine de jours, j'ai l'impression que j'avais les chutes du Niagara dans la grotte.
Alors, c'est pas tout à fait quand même aussi impressionnant que les chutes du Niagara, mais néanmoins, oui, on a une cascade d'eau qui se forme au-dessus d'une zone qui s'appelle les petits bassins, et on a la grotte qui se met à gronder, le torrent qui se gonfle et on a la chance pendant 24 à 48 heures d'avoir une magnifique cascade d'eau dans la grotte. Alors on est presque déçus parce que comme on est encore fermé au grand public et aux scolaires, personne à part nous ne pouvons en profiter. Mais bon, voilà, on a essayé de partager ce moment-là sur nos réseaux sociaux notamment et on a eu beaucoup de retours. Les gens sont extrêmement surpris de voir ce que Mère Nature peut nous réserver. Voilà.
Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que tu parlais de canicule. Donc, vous avez vécu la canicule l'été
Ouais.
dernier. Et là,
Ah ben.
sont les deux extrêmes, c'est quoi?
On a exactement, on a même, ça fait même 3 ans qu'on peut dire qu'on est en sécheresse. On a eu des printemps et des étés et automnes extrêmement secs. Donc les nappes se sont vidées, vidées, vidées. On a d'ailleurs vu un petit peu le niveau de l'eau habituelle dans la grotte baisser. Et cette année, on passe du tout au tout, c'est-à-dire qu'on a eu des 40 degrés extérieurs pendant une partie de l'été. Et puis depuis le mi-octobre, on a eu des pluies abondantes. D'ailleurs, bon, on ne se plaint pas trop parce que nous, on a entre guillemets, c'est le cours d'eau qui ingurgite les fortes pluies. Et on n'a pas eu de dégâts ni matériels ni de pertes humaines parce qu'on pense fort à tous ces gens qui en ce moment sont en train de subir ça aux quatre coins de la France et qui sont en train d'écoper. Néanmoins, oui, on passe d'un extrême à l'autre. On est météo sans sensible. Quand il fait très très chaud à l'extérieur, on a une température constante dans la grotte, donc ça se passe bien. On monte un petit peu en température, ce qui est logique puisque la pierre ingurgite aussi la chaleur, donc la rend un petit peu. Mais néanmoins, on reste toujours sur nos 15 degrés à l'intérieur du site. Mais par contre, à cette époque de l'année, on est vraiment pluie sensible, on va dire ça comme ça. Donc là, il goutte beaucoup dans la grotte. Il goutte beaucoup dans la grotte, donc ça alimente aussi toute la zone et ça me permet de faire vivre la calcite, qui est donc cette pierre qui brille dans la grotte. Et donc on est content, on est content.
Est-ce que dans les contextes actuels, s'il n'y avait pas eu le Covid, vous auriez pu rester ouvert? Parce que bon, les images sont impressionnantes. Ou sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu descendre tout en bas.
Alors, avec une combinaison, peut-être? Non, non, sérieusement, il n'y a aucun souci. On ne ferme qu'une seule galerie à la visite, celle qui est inondée. Mais par contre, il n'y a pas de souci pour nous à rester
D'accord.
ouvert pendant ces périodes-là. Bien au contraire, c'est des événements qui arrivent maximum 2 à 3 fois grand, grand maximum par an. Donc, les visiteurs qui ont la chance d'arriver sur site pendant une crue, enfin, c'est juste magique parce que c'est un truc d'une rareté qui est extrême.
D'accord, ok. L'actualité 2020, ça a été quoi? Ça a été ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture.
Ouais,
Les scolaires,
c'est
pas les
un peu ça.
scolaires. Les groupes, pas les groupes.
C'est
Comment est-ce qu'on fait?
exactement ça. Alors, notre année 2020, dans les grandes lignes, c'est plutôt pas trop mal passé. Certes, on a connu ouverture, fermeture, mais néanmoins, on a eu de la chance d'avoir des visiteurs au rendez-vous. Donc, ce qui fait qu'on accueille moins de visiteurs, mais comptablement, on s'en est sorti. Donc, on est moins compressé que d'autres professionnels qui, eux, ont encore moins ouvert que nous et qui se retrouvent dans des conditions de potentielle réouverture 2021 très, très difficiles. On a ouvert 100 jours de moins qu'en 2019, mais on accueille quand même 57 000 visiteurs, grosso modo, contre les 67 000 de l'année antérieure. Donc, somme toute, on perd un peu, mais bon, on s'en sort. Voilà. Après, bon, bah, les groupes scolaires, les écoles notamment, bah, on les a tous malheureusement perdus à 95%, évidemment, puisque nous avons fermé comme tout le monde le 16 mars et que nous sommes une sortie scolaire. Donc, toute la partie qui a suivi du printemps a été peine perdue. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Les écoles, bon, on était déjà tous à domicile. Et puis, quand les écoles ont pu rouvrir, la priorité était loin d'assurer les sorties scolaires pour les enfants. Certaines écoles ont décalé leurs projets à l'automne. Donc, on en a récupéré quelques-unes classes au mois de septembre-octobre avec des enseignants fous de joie, en fait, de pouvoir sortir avec les enfants et nous de les retrouver parce qu'on a la chance d'avoir un site naturel qui est rare, qui a beaucoup de choses à apporter pédagogiquement parlant. Et en off tout à l'heure, je te le disais, mais je vais le répéter, on se fait quand même un peu de soucis pour ces enfants qui sont en train de vivre des années très compliquées et on pense fort aussi aux enseignants qui vivent ça parce que nous, alors, on fait notre possible pour leur proposer des activités pour que on respecte le plan sanitaire, les règles, tout ça. C'est important pour nous de mettre tout le monde en confiance. On a une chance aujourd'hui, c'est que parmi toute notre équipe en 2020, on n'a pas eu un cas de Covid. Donc on sait que notre plan sanitaire, il est sécure et il répond à des problématiques actuelles. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ouais, non, on se fait beaucoup de soucis pour l'apprentissage des enfants qui malheureusement vivront peut-être pas ces sorties pédagogiques qui sont si importantes pour aider certains leviers, certaines notions. Nous, on est très, enfin, bon, le travail de l'eau, c'est notre travail central, mais on a plein d'autres choses. Ce rapport à la nature, ce rapport à la faune, à la flore, le travail géologique. Les professeurs aiment pouvoir donner des exemples vivants quelque part aux enfants, à leurs élèves. Là, bon, du coup, 2021, on a un peu de crainte aussi de ne pas pouvoir les retrouver et de ne pas pouvoir transmettre ce qu'on a à leur transmettre. Ouais.
Alors justement, j'ai suivi les petits champions de la lecture le mois dernier. J'étais à la médiathèque de Rieux, de pas de Rieux, la pape, pardon, de Meyzieu, et la conservatrice m'avait, enfin la directrice de la médiathèque m'a dit, écoute, on ne s'est pas cassé la tête, on a tout annulé jusqu'au mois de juin. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour programmer une ouverture dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, enfin on ne sait pas quand.
Alors, déjà, je continue de croire que le Covid est une forme d'opportunité pour se remettre en question sur nos pratiques.
Tout à fait.
Donc, quelque part, aujourd'hui, depuis, disons, un an, on est obligé de réapprendre à travailler. Réapprendre à travailler sur des périodes de temps un peu courtes, c'est-à-dire que si on me dit dans 15 jours vous réouvrez, eh ben on sait faire parce que déjà ben, on a appris de l'année dernière. qu'on a le matériel. Cette fois, on n'aura pas de problématique matérielle puisqu'on possède déjà le matériel. Puisque l'année dernière, ce qui avait été problématique, vraiment, c'était de trouver les plexiglas, les masques, le gel hydroalcoolique qui était en rupture de stock de partout ou vendu à prix d'or par certains.
Tout à
Merci à
fait.
eux.
Exact.
Aujourd'hui, on est équipé, donc quelque part, on est beaucoup plus flexible qu'il y a un an. On sait ce qu'on a à faire, le site, il est prêt, on continue de travailler sur la préparation. Typiquement, là, sur cette semaine, on a des travaux de sécurisation, de vérification en cours. Donc, on fait comme si on était dans une année normale. Certes, on devrait normalement être en pleine vacances d'hiver, donc être ouvert au grand public. On l'est pas. Tant pis, hein. On s'assoit dessus, puis on regarde devant. On regarde devant, surtout.
Y a un truc que je comprends pas. Moi, j'avais visité le musée cinéma miniature avec Dan Holman juste avant de venir visiter les grottes. Alors, dans les grottes, il y a eu un truc original, c'est un monument qui est censé être protégé. Et pourtant, tu as installé des feux tricolores. Alors, quand tu m'as fait visiter, tout était, mais alors, plus que parfait. Et pourtant, vous fermez quand même. J'ai du mal à saisir le truc.
Oui, nous aussi, on est communal, on suit les prérogatives de la préfecture à la lettre. Aujourd'hui, oui, on a mis en place un plan sanitaire qui nous permet d'assurer que les gens se croisent le moins possible,
Tout à fait.
qui est un sens de visite enfin, unique, d'accompagner les visiteurs dans leur déambulation pour que tout le monde ait bien compris que, en fait, on a beau être dans une grotte qui est un site naturel, on est quand même considéré comme un site semi-confiné, donc on respecte les règles de port de masque, de nettoyage des mains, et ça, parfois, c'est pas le plus simple. On a des gens qui peuvent arriver en billetterie, on a eu ça l'année dernière, qui arrivaient en billetterie avec le masque et qui avaient comme réflexion de dire mais du coup, je peux l'enlever dans la grotte? Non, en fait, c'est pas un jeu, c'est voilà. Donc, on a fait effectivement, on a mis en place des feux de signalisation sur un des labyrinthes qui est un aller-retour qu'on a réouvert à l'automne seulement parce qu'on savait pas gérer les distanciations sociales correctement sur du pic de fréquentation. Donc, on a fait le choix unilatéral d'assurer la sécurité de nos visiteurs avant toute chose. Donc, oui, il y a 30 mètres aller, 30 mètres retour qui sont fermés, mais sur 1 km de balade, ça
D'accord.
passe. Voilà. Maintenant, oui, pour la question de pourquoi on est fermé, pourquoi on n'est pas fermé, on est assimilé à un musée. On est assimilé au monde de la culture, même si on l'est moyen, enfin, on est en partie monde de la culture, mais pas que. Et aujourd'hui, on applique les règles de la préfecture. On nous a dit vous fermez et pour l'instant, pas de réouverture. Donc, on a fermé et pour l'instant, pas de date de réouverture.
Aucune polémique dans ma question, mais qu'est-ce que tu penses de ces villes, Montpellier, Perpignan en particulier, dont les maires décident de rouvrir en se disant on rouvre pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous feriez, si le maire de Laballe me disait, allez, vous rouvrez, vous le feriez?
Ah oui, tout à fait. Nous, on est toute l'équipe est dans les starting blocks. On attend que ça, de pouvoir réaccueillir du public, retrouver une organisation de vie un peu classique, d'avoir des gens qui ont envie aussi de découvrir des sites différents. Sur typiquement Perpignan ou des. Moi, je peux comprendre, entre guillemets, que certaines villes ont besoin économiquement de faire vivre
Tout à
leur
fait.
patrimoine culturel et poussent un petit peu la porte. C'est vrai qu'on peut se poser la question de la logique ou du moins de l'équité entre certains secteurs ou
Tout à
d'autres.
fait, exactement.
Sans non plus créer de polémique, je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus de crainte à aller au supermarché que dans un musée. Donc, le secteur culturel, le secteur du tourisme s'est préparé, en fait. Et on a tout ce qu'il faut comme outil pour gérer les flux, pour limiter le nombre de personnes en même temps dans les espaces, pour veiller à la sécurité sanitaire, pour mettre à disposition les produits. Et puis, somme toute, les gens du monde du tourisme ou de la culture, on connaît nos sites, on connaît nos espaces de visite, donc on sait où on peut avoir des problématiques, donc les gérer. Pour moi, enfin, j'aimerais qu'il y ait une considération de réouverture, oui. Alors peut-être avec à nouveau des contraintes plus drastiques peut-être que celles que l'on a aujourd'hui. On s'y plierait parce que tout ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir avoir l'autorisation de rouvrir nos portes. Après, j'entends aussi que le Covid est toujours là, bien évidemment, que c'est quelque chose de très sérieux, évidemment, qu'on a des variants qui sont de plus en plus prégnants et qu'il faut qu'on fasse attention. Maintenant, l'activité économique du pays est quand même mise en danger beaucoup. Selon moi,
Oui.
après de mon petit pré carré à moi, néanmoins autant alors pour les stations de ski c'était compliqué parce qu'il y avait la question de si les gens se pètent les bras et les jambes, qu'est-ce qu'on fait d'eux en fait? Même si honnêtement en pleine nature, enfin qu'est-ce que vous voulez, enfin le Covid il s'accroche pas à la neige quoi. Donc bon, c'est d'ailleurs pour ça que les collègues qui sont en montagne aujourd'hui ont réussi à proposer quand même des alternatives pour accueillir
Tout à fait.
les touristes, les visiteurs locaux qui ont envie aussi de respirer parce qu'aujourd'hui on est à bout de souffle quand même. On a l'impression de ne pas respirer correctement et aujourd'hui quand on travaille dans des lieux ou des sites naturels, bah c'est ce qu'on cherche en fait, c'est d'avoir ce rapport à la nature, cette respiration nécessaire pour vivre. Et aujourd'hui, on nous prive un peu de notre oxygène. Voilà.
On est un peu positif maintenant.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait comme manière de savoir qu'on a un point commun avec le phare d'Alexandrie, avec la tour Eiffel, avec les pyramides d'Égypte? Elle peut se demander de quoi je parle. Je crois, sauf.
Parce qu'on est fermé,
Attends. Je crois, sauf erreur,
bah
qu'il y a
oui.
eu un vote démocratique qui a fait que les grottes de la Balme ont gagné la médaille d'or. Alors, on appelle ça des Jeux olympiques de l'Isère? On appelle ça comment?
Oui, effectivement, on a eu la chance. Alors, c'était une initiative du Dauphiné Libéré, qui est donc le journal local, d'organiser une espèce de consultation auprès de leurs lecteurs et internautes, de leur proposer un certain nombre de sites majeurs du territoire et qu'ils votent pour celui finalement qui représentait, selon eux, la merveille de l'Isère. Et effectivement, nous avons été élus la première merveille de l'Isère, c'est vrai. Ça a été une chouette fierté pour les habitants de la commune, pour l'équipe, une reconnaissance aussi du travail accompli. On a la chance d'avoir un territoire de l'Isère, mais qui est d'une richesse, mais c'est extraordinaire. Autant d'un point de vue, alors on a les montagnes, on a la plaine, on a de l'eau, on a de la nature à plus savoir qu'en faire, on a des points culturel majeur et c'est vrai que bah on prend ça comme une chouette fierté et puis on regarde tous les copains qui sont à côté et qui nous aident aussi à fonctionner, à bien à proposer un tourisme responsable, durable. Et puis bah, on a la chance surtout d'avoir un office de tourisme des Balcons du Dauphiné qui est super investi et qui nous aide aussi. On n'est pas cette reconnaissance quelque part, elle n'est pas juste de notre fait à nous. C'est un écosystème qui est ultra positif et qu'on essaie de développer au maximum. Oui.
Donc oui, ça c'est important, c'est bien de le reconnaître, parce que bon, il y a eu quand même pas mal d'autres gens, hein. Je crois qu'il y avait Crémieux qui était dans le coup,
Bien sûr.
il y en avait, de toute façon, ils sont tous beaux à voir, je dirais.
Ah oui, ah oui, bah, c'est-à-dire que sur la palette des 15, 17 sites qui avaient été nommés, tout le monde aurait pu remporter la palme. Après, effectivement, peut-être, et c'est sûr, on a été en capacité de mobiliser un petit peu mieux nos visiteurs pour qu'ils aillent voter. C'est vrai que les Balcons du Dauphiné finissent sur le podium, les deux, c'est-à-dire nous en un et Crémieux en deux. Mais vous prenez les copains de la Grotte Choranche, ils sont arrivés dans le top 10, ils ont un site qui est extra, le funiculaire du Touvet ou ce genre de sites-là, c'est des sites qui sont à voir, c'est des sites où tout un chacun doit aller gratter, aller voir ce qui s'y passe parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer avec des enfants, avec des grands-enfants, avec Non, on a une richesse extraordinaire. Le territoire de l'Isère est top et super actif. Et on pense beaucoup à la montagne aussi, parce qu'en montagne, il y a des choses magiques à faire. Donc, ouais.
Tout à fait. Je vais faire un petit clin d'œil à Rémi Guillot, parce que comme tu disais, les balcons du Dauphiné se sont complètement investis. Et ce qui est étonnant, c'est cette synergie. C'est même pas une synergie, c'est une fusion. C'est-à-dire que vous êtes tous en contact tout au long de, je ne veux pas dire de la journée, mais tout au long de la semaine. Et vous
Ah,
êtes tous,
presque.
ouais, vous êtes tous vraiment comme dire, complètement investis dans une union sacrée, on va dire. C'est pas fréquent.
Oui, probablement. Alors, c'est vrai que bon, les élections ont permis de faire émerger une nouvelle équipe au niveau de l'EPIC qui encadre l'Office de tourisme, avec à sa tête une nouvelle présidente qui est Frédéric Luzet, qui est quelqu'un qui est issu du territoire, qui connaît le territoire depuis longtemps et qui est vraiment très investi dans la dynamique de boost de notre territoire touristique. Et effectivement, sur le terrain, c'est Rémi Guyot, le directeur de l'Office de tourisme, qui coordonne tout ça avec elle. Et c'est vrai que, alors, souvent on dit que c'est quand même parfois une histoire de personne, ça peut. On a de très bonnes relations tous parce que déjà on se parle, parce qu'on se voit régulièrement. Non, mais c'est vrai, c'est important. On
Non,
se
mais
parle, c'est
ça
bête à
paraît.
dire.
Ouais, mais complètement, c'est tellement évident, c'est tellement simpliste, mais tu le dis vraiment avec le cœur, c'est étonnant que tu.
Non, on se parle et en se parlant, eh bien, on se rend compte qu'on fait émerger. Alors parfois, je vais me permettre des idées à la con, mais ces idées à la con, parfois, elles débouchent sur une réflexion qui va être un petit peu plus en profondeur, évidemment, et nous permettre de mettre en place des super projets pour le territoire. Et on a surtout, au-delà de Frédéric et de Rémi, il y a toute l'équipe terrain. Des conseillères en séjour, que chargées de communication, chargées de projets qui bossent avec Rémi, qui font un travail formidable. Et surtout, en fait, ce sont des gens qui sont sur le territoire depuis longtemps, donc ont une expertise. Et ça n'a pas de prix. Et ce qui fait que moi, typiquement, je travaille sur le territoire depuis, j'attaque ma 9e saison avec les grottes. Et ce sont des gens que je côtoie depuis 9 ans. Et donc, il y a une relation de confiance qui s'est établie avec, voilà, on a construit quelque chose sur les années. Et c'est vrai que c'est aussi pour
D'accord.
ça que ça fonctionne. Et que, effectivement, avec Rémi, si je peux l'avoir au moins une fois par semaine par téléphone ou par mail, parce qu'on se renvoie des choses, on se renvoie des contacts, on évoque des projets, on est en lien. On crée du lien, de la cohésion et cette synergie, elle existe vraiment. Alors, elle existe avec moi et lui et Frédéric et l'équipe, mais elle existe aussi avec la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu, avec le site de Walibi aux Avenières, avec la commune de Morestel, la commune de Crémieux, parce qu'il y a une émulsion aussi, et puis tous les autres. Ces producteurs, on a une richesse de producteurs chez nous, mais c'est magique. Si vous aimez bien bouffer et bien boire un petit coup avec modération, avec modération.
Vous traversez la route et il y a la
C'est
boutique.
ça? Non, mais bon, on a une richesse. Je pense, si on est amateur de bière, on a une super
Tout à fait.
brasserie artisanale, pardon, des Ursulines à Crémieux, avec des gens à la tête, dont Olivier, qui est le patron, qui est un type en or, voilà, tout le monde a dû, avec le Covid, se remettre en cause. Il y a une forme de. Je vais enfin, de soutien un peu local aussi qui s'est mis en œuvre parce que on pense aux copains qui sont derrière et qui ont été obligés de mettre en place de la vente en ligne en catastrophe ou de la livraison chez les gens parce qu'ils ne pouvaient plus venir au magasin ou d'aller trouver des partenariats un peu inopinés mais qui ont permis de créer de l'émulsion. Donc non, on a de la chance. On a de la chance parce qu'on a du monde. Ouais.
Le fait que les salons feux du voyage de Comexposium, c'est-à-dire celui de Lyon et puis surtout le monde des tourismes à Paris, soient annulés, donc c'est annulé complètement. Est-ce que c'était important pour vous cette vitrine, par exemple sur Lyon qui drainait quand même pas mal de gens, et est-ce que ça vous a demandé de vous réinventer, de créer de nouveaux concepts, de communiquer différemment? Comment est-ce qu'on peut définir ça.
Alors, il est très vrai que la suppression de ces moments, de ces temps forts qui permettaient de faire parler de nous sur une échelle un peu plus large, alors, c'est embêtant, ça c'est sûr, parce que déjà, ça va provoquer des descentes et des problématiques sur les échelons en dessous de nous.
Oui.
C'est vrai qu'on était dans ce genre de salon représenté par notre office de tourisme qui parlait au nom du territoire. Nous, on n'y allait pas en propre parce que déjà, ce n'était pas notre rôle. On estimait que c'était vraiment d'un rôle communautaire d'aller porter la bonne parole pour
D'accord.
l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, ça fait des temps de discussion, de parole, de prise de contact avec soit le client final, soit avec d'autres partenaires professionnels qui s'évaporent. Donc oui, forcément, on a dû nous réinventer, enfin vraiment, parce que des groupes de 60 ou 70 ou 80 personnes, honnêtement, je pense qu'on ne les aura plus pendant un certain nombre d'années. On constate déjà que ce genre de groupe constitué baisse. Ça fait déjà, moi j'ai dit tout à l'heure, c'est ma 9e saison depuis 2013, cette quantité de groupes qu'on accueille en gros volume. Les gens sont moins friands de ça, ou en tout cas, on n'est pas une destination. Déjà, il faut être un peu physique parce qu'il y a un peu 660 marches chez nous. Donc, voilà. Donc, oui, on a dû nous réinventer avec des formules de plus petits groupes, plus adaptées à des volumes déjà mode Covid, hein, parce qu'on était limité. Mais surtout pour avoir presque une approche personnalisée du produit touristique que l'on propose, que ce soit sur des visites guidées. De toute façon, c'est ce que les gens
C'est
recherchent de
bien.
plus en plus.
C'est j'allais
Bah
dire,
oui,
c'est
c'est
bien.
bien. Bien sûr, c'est très positif. C'est quelque chose qui nous titillait depuis 2-3 ans, 2 ans, je dirais, d'aller vers une personnalisation et peut-être une individualisation encore plus poussée. Donc, on a des demandes sur des groupes de familles où ils sont 10, 15 max. Ils arrivent à 2-3 voitures et puis on organise une venue sur un petit groupe ou des amis, des groupes d'amis constitués où ils se retrouvent et puis ils préfèrent faire une visite guidée en petit groupe, comme ça ils ont leur temps dédié à eux, etc. Donc oui, forcément, on a dû se remettre en question. Maintenant, on espère quand même qu'à un moment donné, on pourra retrouver ces temps de cohésion. Je pense notamment, nous, dans le cadre du tourisme, on a ce qu'on appelle des bourses d'échange de documentation touristique. C'est un événement qui a lieu une fois par an, qui est coordonné par la Fédération de touristique du département. Et c'est donc en 2020, on n'a pas pu les avoir. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup manqué, d'une part, parce que en termes de promotion de nos destinations, ça a été compliqué de les assurer. On avait fait fabriquer de la documentation qu'on n'a pas pu diffuser comme on aurait dû, comme on aurait voulu plutôt, parce qu'avec le Covid, c'est pas, voilà, auprès des partenaires avec qui on travaille, d'autres destinations locales. Et puis, c'est des temps où on crée des relations sociales, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, je veux dire, on ne gère pas des boulons, même si je respecte l'industrie des boulons, il n'y a pas de problème, mais on gère de l'humain, on gère de la relation sociale. Et aujourd'hui, le monde du tourisme et de la culture, on est complètement coupé de ça. Et le téléphone, c'est sympa, la visio, c'est sympa, mais ça ne créera jamais l'émulsion qu'on a quand on voit physiquement les gens. Et somme toute, on est latin. Donc, comme on est latin, on aime le contact avec les gens, en fait. Voilà, c'est. Donc, non, ça génère quand même une remise, je répète ce que j'ai dit en introduction, une remise en question totale de nos pratiques, de la manière dont on approche nos clients, mais aussi nos partenaires, les collègues. Il y a une distanciation naturelle qui s'est mise en place, qui n'est pas facile à gérer du fait de notre tempérament latin.
Exact, tout à
Voilà.
fait. Allez, dernière question. Enfin, le 6 février, nous avons lancé le concept qui s'appelle Terre de Jeux 2024. J'ai encore remercié Renaud Berrettil, maire d'Aix-les-Bains. J'ai remercié Aurélien Leprêtre, qui est l'adjoint au sport de la ville de Bourgoin-Jallieu. J'ai remercié évidemment Anne Chevalet, la directrice, une des directrices du Musée olympique de Lausanne. Terre de Jeux 2024, c'est pour quoi, au fait? Est-ce que c'est pour le 100e anniversaire de Chamonix, puisque ça sera en 2024, 100e anniversaire des premiers Jeux olympiques d'hiver? Comment est-ce que les grottes, est-ce que que vous organisez des compétitions sportives dans la grotte? Est-ce que vous allez faire des canoës-kayaks? Est-ce que vous allez... Comment vous vous
Non, c'est
préparez?
vrai
Oui,
qu'on
oui.
s'est pas, on s'est pas vraiment, entre guillemets, attaché à un projet lié aux Jeux Olympiques. Maintenant, moi, j'ai une appartenance, enfin, une appartenance, disons, un rapport aux Jeux Olympiques qui est un peu particulier parce que j'avais un grand-père qui était grand fan de ski et qui avait assisté à Albertville 92. Et voilà. Et en fait, c'est.
Je tiens à te remercier pour le grand-père parce que moi j'ai vécu à Albertville, donc je tiens,
Oui,
j'apprécie.
mais
Non, mais merci,
oui, ben
non,
non, mais bon, c'était mon grand-père, donc
mais.
voilà, je peux pas
D'accord.
mentir. Non, mais par contre, j'ai un rapport aux Jeux Olympiques, notamment d'hiver, un petit peu différent parce que j'ai une famille qui est attachée à la montagne beaucoup. Et puis, en fait, j'ai eu la chance de vivre l'élection, ou du moins l'ouverture après Turin. C'était donc Vancouver, et à l'époque, j'étais à Vancouver et j'ai vécu la cérémonie d'intronisation de Vancouver. Et du coup, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. J'avais une vingtaine d'années et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir effectivement des destinations qui en local accueillent les Jeux Olympiques, c'est fantastique en termes de visibilité et puis c'est un travail titanesque. Après, on peut discuter de ce que ça génère en termes d'emploi, en termes de retombées économiques, etc. Mais cela dit, les personnes que tu as citées, ces professionnels que tu as cités tout à l'heure, c'est des gens qui sont ultra investis dans justement ce rapport au sport, la culture, les jeunes, la jeunesse, et de mobiliser tout ça. Alors nous, c'est vrai que dans les grottes, c'est compliqué de mettre en place des choses. Maintenant, on soutiendra s'il y a
D'accord.
besoin d'une manière ou d'une autre et qu'on est sollicité, on trouvera bien un moyen de nous lier à tout ça et de proposer peut-être, en tout cas, un soutien moral, c'est sûr.
D'accord. Écoute, je te remercie. Je vais juste vous rappeler quand même que le 5 mars, c'est la deuxième chronique. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Ludovic Bertagnolo, qui est le directeur de la maison des Jeux Olympiques d'Albertville. Donc justement, ça permettra de faire un truc sympa. Je vais te remercier
Super.
d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce qu'il
Merci à toi,
faut
Alain.
souhaiter pour, je sais pas, je dis demain, après-demain, après-après-demain
Alors, quand on a passé le 1er janvier et que j'ai présenté mes vœux à l'ensemble de mes partenaires, collègues, familles, je vais du coup répéter ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je nous souhaite à tous une année 2021 plus calme et plus paisible. Bon, j'ai envie d'y croire. Donc on va tous se souhaiter ça. Voilà.
Bon, et puis on va finir par un truc qui est important quand même, c'est dans les quelques heures. Bonne Saint-Valentin à tous.
Bonne Saint-Valentin et à bientôt.
Merci.